מהי הוא כשר ינדל? זה רצפי טוטל, מה עשיתי?
הוא עשיתי פשוט דוגמתי, הוא כתונגה, שפוטפוט אמפוטלון ניבל, זה מפריסיבות ומפוליציות ברפורציה.
Merci de votre fidélité à Radio Okapi et merci d'accepter de participer à ce débat pendant ces 57 minutes sur la fréquence de la paix. Depuis 2014, la RDC a lancé le processus d'intégration au système LMD, licence, maîtrise et doctorat dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Objectif, diminuer le nombre d'années dans chaque cycle et éviter ainsi des diplômes supplémentaires. Certains observateurs estiment que la réforme de l'ESU devrait plutôt consister à former notamment les étudiants capables d'utiliser les enseignements reçus pour la société. Qu'en pensez-vous? Vous pouvez participer à cette émission en direct en composant les 081 890 6315 et vous avez également la possibilité de poster vos commentaires sur notre page Facebook ou à l'adresse pa@radiocapi.net. Alain Goy est à la mise en onde, Piero et la Mégie au standard et à la réalisation de ce programme supervisé par Martin Tebujangwe et coordonné et présenté par J.R. Longembo Luabong Anji. Bienvenue à tous.
Parole aux auditeurs pour participer 081 890 63 15 ou par internet pa@radiocapi.net.
Parole aux auditeurs, J.R. Longembo.
Nous avons le plaisir de recevoir dans ce studio un invité que vous connaissez très bien, professeur Nsaman Olutu Oscar, qui est professeur ordinaire de l'université, recteur magnifique de l'université de Sepromade et aussi honorable dans la commission socio-culturelle et aussi membre de la commission éducation au Parlement panafricain. Professeur, bonjour.
Je vous salue, Gérard.
Alors, d'entrée des jeux, vous avez participé donc à ces assises de Zongo en 2014 qui avait comme objectif de revoir la loi cadre de l'enseignement national. Et vous avez été même à la base d'ailleurs de la proposition de cette loi, de cette révision au niveau du Parlement. Qu'en est-il 3 ans après? Aujourd'hui, nous parlons des processus d'intégration du système LMD, licence, maîtrise et doctorat dans les secteurs de l'enseignement supérieur et universitaire. Est-ce qu'il est c'est cette intégration ou ce processus, il est réellement effectif?
Merci, GF. Je commencerai tout d'abord par remercier la radio Okapi pour l'opportunité qu'elle me donne pour pouvoir partager cet élément de réponse avec les auditeurs. Mais GF, pour aller droit à l'objectif, vous avez parlé d'abord des Zongo. C'est vrai, Zongo était en fait ce que j'appellerais un laboratoire des experts en enseignement supérieur et universitaire. Nous dirons ici félicitations d'abord au ministre Macaire, qui à cette époque-là, quelques jours seulement, après que l'Assemblée nationale ait voté la loi cadre et que le président de la République l'ait promulguée, a décidé de pouvoir se retirer à Zongo avec un groupe d'experts, tant nationaux qu'internationaux, pour essayer de dégager un inventaire de mesures de mise en œuvre de cette loi-là. Parce que vous savez que des lois, nous en avons, mais le problème, c'est de savoir comment mettre en application. C'est pourquoi une série de plus ou moins 50 mesures de mise en œuvre de cette loi ont été prises et suggérées, bien sûr, au ministre des tutelles. Félicitations pour ça. Si on peut éventuellement commencer à appliquer, je crois que c'est une bonne chose. D'ailleurs, l'application a commencé, parce que la loi par elle-même disait qu'elle entrait en vigueur 12 mois après. Donc, la loi est déjà en vigueur et on est en train d'avancer. Aussi, dans ce cadre-là, on a parlé des LMD. C'est ce que vous venez de dire. LMD, d'abord, je crois, on semble mystifier les choses. Mais pour pouvoir simplifier, quand on dit LMD, on oppose ça à notre système qui est le GLD. GLD, c'est graduat, licence et doctorat. LMD, c'est licence, master et doctorat. Enfin, quand il faut caricaturer pour faciliter la compréhension, on dira tout simplement, il faut inverser quelque peu notre système GLD, et puis les L qui est L licence en grade chez nous devient les graduats. Donc, au lieu d'avoir 3 années de graduat, on a 3 années de licence. Donc, nous disons première licence, deuxième licence, troisième licence. Après ça, on appelle ça licence 1, licence 2, licence 3. Et puis après, il y a master, master 1 et master 2. C'est l'équivalent, en fait, de notre premier graduat, deuxième graduat, troisième graduat, qu'on appelle maintenant licence 1, licence 2, licence 3. Et puis notre licence 2, licence 1, licence 2, qu'on appelle master 1, master 2. Et puis doctorat. Mais ce qui est plus intéressant et plus facile dans tout ça, c'est en fait le système américain qui existe, que nous avons appliqué 9 ans, pendant 9 ans j'ai été aux États-Unis, dans ce système-là, qu'on essaie d'amener au niveau du système belge. S'il faut, appelons ça comme ça, système belge, parce que nous sommes habitués avec ça. Alors, le problème est de savoir où est-ce qu'on en est. Alors, c'est simple. Le ministre lui-même a dit, on devait, d'ailleurs c'est tout à fait normal, on devait appliquer des mesures de manière progressivement. Et bien sûr, on a commencé progressivement au niveau des universités. Je sais, il y en a qui ont commencé, surtout au niveau des privés. L'ICC a commencé, les Sepromat a commencé, quelques universités privées ont commencé, mais ça va au fur et à mesure. Pour l'État, je sais, ça c'est un peu la leçon de tout le temps, on attend l'argent.
Est-ce que vous, en tant que professeur, vous estimez comme les autres que ils ont basculé dans l'MLD et quitté GLD, ça pourrait améliorer la qualité de l'enseignement supérieur et universitaire en RDC? Les problèmes de la qualité reposent vraiment dans ces systèmes?
Et je dirais que l'MLD, c'est un système plus souple. LMD, c'est un système plus direct. Au lieu de se noyer dans notre système GLD où les gens vieillissent à l'université, l'université devient une carrière. Mais dans les systèmes LMD, on va droit à l'objectif. Vous avez fait la licence, les masters directement, vous entrez au doctorat. Et comme ça, en quelques 5 ans, en fait,
vous êtes déjà docteur.
Vous êtes déjà docteur. Voilà. Pourquoi il y a qu'il y en a qui sont docteurs.
Mais j'ai posé tout à l'heure la question, est-ce que ça va améliorer la qualité? Le contenu d'ailleurs qu'on va donner, est-ce que ça va améliorer? Parce que la question, la thématique aujourd'hui, comment arriver à amener, disons, la formation aujourd'hui des étudiants qui soient capables de créer des emplois, au lieu d'être tout le temps demandeurs d'emploi, parce que nous versons dans la société chaque année des licenciés, des gradués, mais au finish, mais c'est pour remplir simplement ou augmenter les taux de chômage.
Si vous voulez, je puis vous dire la vérité. C'est vous dire, avant de demander si on va améliorer, quel est l'état des lieux. Et on va améliorer quoi? Mais l'état des lieux, ça c'est mon point de vue, les résultats de mes recherches, ça m'engage et j'y vais droit à l'objectif. Notre système universitaire,
GLD,
en fait, n'est rien d'autre qu'un système contenu dans les établissements qui sont en fait considérés comme des industries de fabrication de chômeurs. Ça m'engage, je l'ai dit, et à base des recherches.
Pourquoi?
Nous prenons notre université, le plus grand institut public, université publique.
De Kinshasa, de Kinshasa,
par exemple. Kinshasa, tout ça. Tout simplement, disons une moyenne de 1000 étudiants diplômés par an qui ont reçu la collation. Vous posez la question de savoir, deux semaines après, il y en a combien qui ont trouvé de l'emploi. Les recherches ont montré pas plus de 10%. Si pas plus de 10%, ça signifie sur 1000 étudiants, il y a 900 chômeurs.
Alors, il faut repenser l'enseignement,
c'est-à-dire. Il faut répondre.
Et la loi cadre, et la loi cadre de l'enseignement.
Vous allez en reculant, c'est-à-dire qu'en premier, disons plutôt en année terminale, 900 chômeurs, et en première licence, 900 chômeurs, en reculant. Finalement, l'université, pendant les 5 années, est en train d'entasser tout simplement les chômeurs. Alors, qu'est-ce qu'il faut? Le problème, c'est que l'enseignement, le système d'enseignement actuel est en train de rentrer sur ce qu'on a appelé la tropicalisation de l'enseignement. Tropicalisation de l'enseignement, ça signifie quoi? Ça signifie qu'avant l'indépendance, on avait plein d'universitaires qui venaient de la Belgique. Mais avant de venir ici, il fallait le faire passer par l'inverse. Pour le tropicaliser, leur dire allez au Congo, mais sachez que vous aurez affaire aux gens qui ne peuvent pas faire de mathématiques, les gens impossibles de faire la psychologie, les gens qui ne. Et il faut les chicoter, etc., etc. Alors, à ce moment ici, le problème réel est quoi? Le problème réel est que quand on veut améliorer les standards, les standings et les niveaux de l'université, il faut voir les ratios. Les ratios entre étudiants et le professeur est à peine de 1:20. Ça, c'est le standard international. Mais ici, chez nous, les ratios de 1 pour 450. Dans une promotion, il y a 450. Il y a 3000. Allez, même en médecine. Si vous prenez tout simplement...
Il faut d'abord commencer par changer ces ratios. C'est juste
pour changer ces ratios.
C'est plus important.
C'est très important. Deuxièmement, il y a le nombre de professeurs qui doivent enseigner. Mais il se fait qu'à ce moment-ci, les études ont montré que pour que d'ici 10 ans, nous pouvons quand même faire un pas en avant dans le sens de l'amélioration. Il faut former au moins 250 professeurs à thèse par an. Et successivement. Mais où en sommes-nous? Nous n'en formons que à peine plus ou moins 25.
De soit 10%.
25. Alors, ne parlons pas d'autres futurs bâtiments, combien on a construit depuis l'indépendance et consorts. La question est de savoir, tout simplement, du point de vue, comment pouvez-vous essayer d'atteindre ces standards internationaux des ratios? Et quelle est la politique du gouvernement pour ça?
Est-ce que c'est un problème de filière? Est-ce que aujourd'hui c'est un problème de filière qu'on propose? Parce que vous l'avez si bien dit, la politique de l'enseignement. Mais alors, quel est le travail que vous avez fait à Zongo en 2014?
Oui.
Parce que la loi cadrée est là. Et si nous lisons des dispositions sur toutes les lignes, on se rend compte qu'il y a cette volonté-là, au niveau des professeurs que vous êtes, au niveau des décideurs, d'aller réellement vers les résultats. Les résultats, c'est celui-là. C'est-à-dire d'étendre vers le standard international, LMD, de quitter les GLD, mais tout en mettant un accent sur les contenus même à proposer, la filière.
Maître.
Parce que si nous fréquentons nos universités, on va à l'économie, en droit, on verra un nombre exagéré, par exemple, d'étudiants, qu'en agriculture, par exemple, dans d'autres filières.
Mais je suis en train de vous dire, former les étudiants, c'est une bonne chose. Nous avons des brillants juristes, des brillants économistes, des brillants, tout ce que vous pouvez imaginer. Mais posez-lui la question de savoir, quand il a son diplôme d'État, ou il a plutôt son
diplôme,
vous dites, qu'est-ce que vous voulez faire? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire?
Voilà.
Alors, la réponse est très simple, il ne sait pas.
Il ne sait pas.
Il ne sait pas? Oui. Parce qu'il y a un problème de manque de professionnalisation de l'enseignement. Il y a un problème de manque d'adéquation entre la formation qui est donnée avec la demande. De la
voilà, on va suivre quelques auditeurs qui nous ont rejoints à ce niveau du débat, professeur. Je retiens trois pistes de solutions pour qu'on arrive aujourd'hui à renverser la tendance, à inverser la tendance, surtout avec les taux de chômage hein, qui est très accru. Comment faire en sorte qu'on puisse les diminuer, parce qu'aujourd'hui, on ne peut pas seulement former les demandeurs d'emploi, mais plutôt former les créateurs d'emploi. Willy nous a rejoint, mais on va commencer par Omar. Omar, vous êtes un produit de l'Université de Kinshasa. Omar, vous êtes avec nous, bonjour.
Bonjour JR et bonjour à l'invité.
Alors, vous avez suivi notre invité, professeur Tamal, qui a évoqué trois pistes de solutions, notamment, il faut changer les ratios qui, de manière un peu standard sur le plan universel, c'est étudiant sous professeur, c'est 1 sur 20, et puis ici, chez nous, c'est 1-400, donc c'est un étudiant pour 400, un professeur pour 400 étudiants, il faut changer cela. Le nombre de professeurs, 10 ans après, il faut former au moins, plus ou moins 250, mais nous sommes à quelques un pourcentage un peu faible. Et aujourd'hui, le manque de professionnalisme dans l'enseignement supérieur, dans la formation des étudiants. Est-ce que vous partagez cet avis?
Totalement, JR, je suis d'accord avec l'invité. Comme le disait Guy Verbeau, l'intelligence n'est pas le fait de parler français, d'avoir des thèses de doctorat, mais c'est implanter son cerveau pour les services de son pays. En ce sens, je dis merci au professeur, car il fait vraiment très une élite. JR, nous l'avons toujours dit, il n'y a pas que le politique qui suit ce pays, il y a aussi l'élite. Car un pays sans pensée n'est pas un pays qui voit le développement. Ça me fait mal dire. Je suis actuellement en pleine retraite parce que je suis en train de travailler sur certains documents. Mais vu le sujet pertinent, j'ai voulu vraiment intervenir pour vous dire que aujourd'hui, comme le prof l'a dit, il faut commencer par l'état des lieux de notre enseignement. Vous savez, j'y avais été écœuré l'année passée, je ne sais pas si la donnée est la même. Nous ne sommes pas même pas parmi les 100 premières universitaires africaines. S'il faut faire la liste en Afrique, je ne parle pas du monde entier. Aucune université congolaise ne figure parmi les 100 premières universités africaines. Rien que cet état de lieu peut déjà nous interpeller, nous tous, gouvernants, gouvernés et élites congolaises. Et moi, je pense, comme le professeur l'a dit, la réforme demeure en ce jour une solution urgente. Je fais mienne toutes ces propositions qui d'ailleurs sont pertinentes. Mais je pense, JR, que ce ne sont pas des solutions efficaces. Moi, je suis un ancien de l'UNICEF, comme vous l'avez dit. Les mots sont nombreux, et avant de bien connaître un problème, avant de bien les solutionner, il faut bien connaître tous les problèmes. Sinon, on traiterait les problèmes en partie. Et avant de passer à mes solutions rapidement, je tiens à vous dire, j'y ai rappelé à tout le monde, que l'accès à l'éducation n'est pas seulement un droit garanti à tout Congolais ou à tout Africain, c'est aussi un indicateur de développement humain. On reconnaît un pays développé ou émergent s'il y a un accès formidable de l'éducation et que ceux qui sont éduqués les contribuent pour leur pays. Parmi les solutions JR, j'ai dit, je fais mieux que celle proposée par les professeurs. Mm-hmm. Je pense que JR, la solution passe aussi par l'application de mesures prises et leur suivi. Aujourd'hui, par exemple, je prends un exemple au hasard. Le ministre vient de décider que désormais, il n'y aura pas de vente de syllabus, ce n'est pas obligatoire. Vous avez peut-être combien d'années on a pris cette décision? Moi, je suis un ancien de l'UNICIM. Mm-hmm. Et il faut voir comment on devient professeur aujourd'hui. Une sorte qui aujourd'hui peut devenir professeur. Aujourd'hui, pour devenir assistant. D'ailleurs, je vous informe, moi, en fait, de l'UNICIM. Je n'ai jamais vu de la première année graduée, qui est juste en deuxième licence, plus de 10 professeurs qui enseignent. La plupart sont des hommes politiques, et ce sont des assistants heureux qui ne savent même pas conjuguer le verbe être au futur simple, qui viennent nous enseigner, c'est dégueulasse. Je l'ai dit en connaissance de cause, allez vous renseigner, et ne viennent même pas enseigner JR.
Alors, Omar, tiens compte juste de cet aspect des choses. Aujourd'hui, quitter GLD, le système GLD, au système LMD, c'est-à-dire qui va nous permettre de réduire d'ailleurs même le nombre d'années dans un cycle universitaire, comme nous l'avons dit, les graduats qui prenaient 3 ans, actuellement vous faites 3 ans de licence. Est-ce que déjà, lorsque nous faisons, vous faites ces observations-là, est-ce que en réduisant le nombre d'années, n'est-ce pas là une façon pour nous encore de créer davantage de problèmes au niveau du contenu? Parce que déjà, les professeurs n'arrivent pas pour enseigner en temps normal, s'il faut réduire le nombre d'années, et les problèmes se poseraient encore avec acuité.
La FGR, c'est une solution efficace mais n'est pas suffisante. Pourquoi est-ce que je l'ai dit? Les problèmes de l'enseignement doivent être situés dans les temps et dans l'espace. En termes de temps, je suis d'accord avec le professeur pour dire que des longues années ne favorisait pas le client congolais. Le monde évolue, il faut évoluer avec le monde. On est aujourd'hui en pleine époque contemporaine, on ne peut pas continuer à évoluer avec des idées antiquitaires. Je suis d'accord avec lui, il faut réduire le nombre d'années pour favoriser les étudiants. Mais ce n'est pas la solution efficace hier. Il faut encore se poser la question, même s'il faut passer des GLD au LMD. Qui doit former qui? Là, je fais allusion aux fournisseurs de l'éducation. Qui forme les Congolais? Qui sont ceux qui sont appelés à former? Il faudra penser au recrutement de ceux qui doivent faire. Avoir des pièces.
Voilà. Donc, si je comprends bien Omar, il y a quand même quelques complaisances, hein, selon vos propos, en fait. Les non-dits, hein. Il y a une certaine complaisance dans le recrutement, dans la sélection même de ceux qui sont censés demain fournir l'enseignement, donner aux étudiants les fondamentaux de la vie par rapport à leur matière. Donc je crois que c'est à ce niveau-là. Merci beaucoup, Omar. Vous rejoignez donc à 100% le professeur qui a proposé, disons, de pouvoir repenser un peu certaines choses qui sont obligatoires pour réussir cette réforme, notamment revoir le ratio, penser au nombre de professeurs, dans 10 ans en former 250, et puis insister sur le professionnalisme dans l'enseignement. Merci beaucoup. Alors Willy, vous êtes à Colézy. Bonjour et bienvenue. On va prendre Christophe qui est à Bandouville. Bonjour Christophe.
Bonjour, JF, bonjour Radio Capi, bonjour à tous les auditeurs.
Voilà, Christophe, quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Oui, je suis très content et je salue avec beaucoup de chaleur le professeur Mbaman que je connais bien. Mais qui a déploré, c'est au niveau de la qualité de l'enseignement. Je pense que cette disposition peut être intéressante, mais il ne faut pas tuer, c'est pas par la queue, mais plutôt par sa tête. Je pense que le problème se pose au niveau de la base. Moi, je suis assistant à l'université de Bandundu. Nous sommes en train d'assister à des scénarios dans le chef des étudiants en rapport avec les performances qu'ils présentent. Donc, je pense que la cause provient de très loin. Au lieu de penser à améliorer les choses vers la fin, il faut commencer vers le bas, c'est-à-dire au niveau de l'enseignement primaire. Tenez par exemple, il y a de cela quelques années passées, où on a posé sur la gratuité de l'enseignement primaire. On a voulu résoudre un problème, mais tout en créant un autre, le problème des pléthores dans les classes. Sans pour autant prévoir les méthodes, les techniques d'enseignement adaptées à des classes, publiques. Vous voyez que c'est comme si on voulait déshabiller Saint-Pierre pour habiller Saint-Paul. Moi, je pense que changer, raccourcir le nombre d'années au niveau de l'université, c'est bien, mais avec quelle qualité? Avec quelle qualité?
Oui, Christophe, parce que vous êtes Christophe.
Progresser au niveau secondaire et enfin au niveau universitaire.
Oui, Christophe, justement, parce que vous êtes assistant, c'est vrai, il y a eu la loi cadre revue et corrigée en 2014, donc en tout cas, si ma mémoire est très bonne, le 11 février 2014, que cette loi a été promulguée par le chef de l'État et aussitôt promulguée les professeurs, en tout cas, sous l'impulsion du ministre de l'Enseignement, alors que Makir Mwangu faisait l'intérim du ministre de l'Enseignement supérieur et universitaire, a amené les professeurs, les experts nationaux et internationaux pour réfléchir sur la révision, sur l'application, en fait, les mesures d'accompagnement de cette loi qui a été promulguée. Mais on a même décidé sur, disons, beaucoup de choses, et notamment le changement du système GLD MLD. Mais d'aucuns se posent la question aujourd'hui que même si on doit changer les systèmes, et ça serait difficile aujourd'hui si on ne repense pas la qualité, les contenus, pour qu'on arrive réellement au résultat. Le fait d'ailleurs de réduire le nombre d'années risque encore d'abrutir, hein, ou d'avilir encore l'enseignement.
Tout à fait. Tout à fait. Je pense que nous raisonnons presque de la même manière. Pas presque, mais nous raisonnons de la même manière. Parce que si on peut raccourcir le nombre d'années pour faire des docteurs, alors que les contenus restaient les mêmes, qu'est-ce qu'on a finalement fait? Je pense que ça ne vaut pas la peine. Il faut au contraire revoir le contenu plutôt que le nombre d'années. Parce que s'il y avait à renforcer, il faut aller dans le sens d'ajouter le nombre d'années pour essayer de renforcer les capacités des étudiants. Et si on raccourcit, on ne résout presque rien.
Voilà. Alors, on a tout suivi déjà dans, parmi les mesures d'application. Il y a notamment la décision qui a été prise par rapport à la vente des syllabus. Vous êtes assistant, je crois que ça vous touche aussi directement. La vente des syllabus ne doit pas être obligatoire et surtout ne pas conditionner la réussite ou encore la passation d'examen à l'achat de syllabus. Est-ce que vous partagez l'avis selon lequel que c'est déjà des signaux forts vers l'application de cette loi?
Oui, oui, moi je pense que la vente des syllabus ne doit pas être quelque chose d'obligatoire. Ça c'est vrai, ça ne peut que se passer dans ce sens-là. Mais de la part des étudiants qui fait preuve d'une certaine faiblesse vraiment considérable, de leur part, ils se sentiraient obligés. Parce que même pour se faire eux-mêmes dedans, nous quand nous sommes passés à l'université, et pendant que j'interviens là, mes professeurs sont en train de me suivre, ils sont connectés. Il arrivait des fois où le professeur Bigaï, par exemple, venait dans l'auditoire, il disait sa matière et nous-mêmes nous faisions des notes. Chose qui ne peut pas se faire aujourd'hui. Vous voyez un peu ce décalage, cette différence. Aujourd'hui, là, le support intervient comme une manière de résoudre et de pallier aux faiblesses des étudiants afin de les pousser à ne plus que lire. Donc, ça, c'est. Donc, de notre part, ce n'est pas, ça ne doit pas être une obligation. Mais de la part des étudiants, et même s'ils se sentent à les possibilités de faire mieux, d'apporter le meilleur d'eux-mêmes, ils seront obligés. Ça, ce n'est pas au niveau des enseignants.
Merci beaucoup, Christophe, d'avoir appelé de Bandoumouville. Nous rappelons que vous êtes assistant et vous avez tenu à contribuer à cette émission. Merci beaucoup. Ingénieur Eric, vous êtes à Kikwit, toujours dans la ville, dans la province Bandoudou de Bambré. Là, c'est à Kwilu, je crois. La province est Kwilu. Ingénieur Eric, oui. Bonjour.
Bonjour, Gérard.
Voilà, vous êtes dans la province de Kwilu. Quel est votre avis?
Oui, allô?
Oui, quelle est votre contribution à ce niveau du débat, Général Eric?
Ok, merci bien. Moi, je dirais ceci. En ce qui concerne ce système que venait d'évoquer le professeur Kamana, moi, je crois que ce n'est pas ça. Ça, c'est mettre la charrue avant le blé. Moi, je pense qu'on devait d'abord commencer par établir arbre à problème. Ça signifie identifier tous les problèmes, tous les maux qui rongent notre système éducatif. Vous allez comprendre que notre système éducatif vraiment a des maux tellement qu'on ne peut pas vraiment dire en direct comme ça à la radio. Il y a des choses
qu'on peut pas dire. Oui, oui, je crois que l'état des lieux a été fait. Et si on est arrivé à la loi cadre de l'enseignement revue et corrigée en 2014, c'est en partant de cet état des lieux et professeur Samal, au niveau du Parlement, a pu proposer le projet de loi qui a été par la suite adopté par les deux chambres du Parlement et au finish promulgué par le chef de l'État. Et ce qui a fait que les experts nationaux et internationaux se sont retrouvés à Zongo en 2014 pour en fait réfléchir sur les mesures d'accompagnement de cette loi. Nous en sommes 3 ans après, où en est-on? Est-ce qu'il y a d'application? L'ancien ministre de l'enseignement a pris une décision, par exemple, qui était aussi évoquée dans cette loi que les instruments ou les outils pour permettre à ce que les étudiants accèdent à une formation de qualité, il ne fallait pas conditionner la vente des syllabus, par exemple. Alors, aujourd'hui, nous en sommes là.
Oui, je sais que la vente des syllabus ne peut pas être conditionnée à la réussite de l'étudiant. Moi, je dirais ceci. L'étudiant, tel qu'il est là, normalement, il doit avoir les supports pour lui permettre de pouvoir étudier à chaque moment où il veut. Mais, tandis qu'à l'université, les professeurs s'imposent à dire, par exemple, si tu veux réussir, tu dois acheter des syllabus. Mais ce n'est pas partout. Ce n'est pas dans toutes les universités que ça se fait. Moi, je peux vous donner l'exemple de l'université de Kinshasa, là où les professeurs viennent, ils vous disent, les syllabus n'est pas obligatoire. Celui qui veut, il peut acheter. Celui qui ne veut pas, il n'a qu'à laisser. Mais de dire que les syllabus conditionne la réussite de l'étudiant, moi je dirais que ce n'est pas vraiment le cas. Ce n'est pas pour tous les universités.
Merci beaucoup, ingénieur Eric. Alors, on revient à vous, professeur Saman. C'est vrai, il faut repenser les contenus. Comme l'a dit d'ailleurs Christophe, et puis ingénieur Eric qui a également partagé à 80% tout à l'heure vos propositions, les propositions faites par vous.
Une petite précision. De toute façon, au niveau du Parlement, vous savez qu'il y a ce qu'on appelle projet de loi et proposition de loi. Le projet de loi provient du gouvernement, proposition de loi peut venir des parlementaires. Donc se disent que le professeur Saman, dans ce cas précis, il a participé comme membre de notre commission culturelle dans ces ans. Mais il n'a pas proposé la loi, et bien sûr encore moins projet de loi. C'est une précision. Ça, maintenant, si on revient au contenu, nous dirons encore, il n'y a pas question de raccourcir ou d'allonger. Nous parlons tout simplement de modification des systèmes. On parle de GLD vers LMD. On ne peut même plus en discuter parce que la loi a opté pour LMD. C'est déjà décidé. Maintenant, c'est question de mise en application. Alors, pour cela, je vais vous dire tout simplement que LMD a plusieurs avantages aussi. Déjà, au niveau de la mobilité des professeurs, au niveau d'équivalence des diplômes. Quand notre étudiant diplômé de Kinshasa va, par exemple, à Brazzaville ou il va en Europe, le problème d'équivalence, ça pose problème. C'est pourquoi au niveau des travaux de Bologne, ainsi de suite, on est arrivé au système de LMD pour dire que pour faciliter la tâche, pour faciliter les transferts, ainsi de suite, il y a lieu d'adopter cela. Ça, c'est une des raisons. La deuxième raison, bien sûr, on dit il y a un système de crédit. On ne parle plus des nombres d'années ici. Parce que un cours qui peut se donner en une année peut éventuellement se donner en trois mois. Parce que c'est le nombre d'heures qui compte. Donc, ce nombre d'heures peuvent être concentrés, donnés en quelques mois. Et pour bien étaler ça sur toute une année. Et quand on étale sur toute une année,
aussi avec les extramuros des professeurs,
le nombre d'années se prolonge. Et bien sûr, à ce moment-là, les professeurs ont des extramuros et des étudiants programmés. Mais pourtant, dans les systèmes LMD, on utilise la méthode semestrielle. C'est-à-dire, le cours se programme par semestre. Partant de là, un professeur peut dire, pendant ce semestre, j'essaierai là en train d'assurer mes enseignements, les restes du temps, je serai libre, je peux aller dans une autre université, aller travailler, ainsi de suite. Donc, c'est dit, c'est ça, ce sont des avantages non négligeables. Il faut quand même prendre ça en considération. Bien sûr, quand on parle de contenu, je l'ai dit, nous avons des étudiants très, 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 très brillants. Allez à l'Afrique du Sud, demandez aux médecins qui sont là, et demandez ainsi de suite, partout. Vous allez voir. Mais la question est de savoir, où est la professionnalisation? Comment est-ce qu'on peut faire pour qu'un juriste, quand il arrive sur la rue, il a une petite panne, une bête panne de voiture, qu'il soit capable de dire que c'est plutôt le coste de la batterie qui a sauté? C'est question de professionnalisation. C'est pourquoi nous dirons ici, de 1, il faut sortir du système de tropicalisation qui dit qu'il n'y a que les universités classiques qui ont adopté les systèmes belges, qui ont vu des bâtiments construits par la coopération, et ainsi de suite, qui sont valables. C'est pourquoi l'autre a dit, mais quand on a aligné les universités, parmi les 100 meilleurs, où étaient nos meilleurs qu'on appelle les grandes universités classiques.
C'est pas une façon pour vous de prêcher pour votre propre chapelle, parce que vous êtes dans l'AUPA, l'association des universités privées.
Je n'ai même pas parlé de ça, mais
là déjà on sent que les universités classiques aujourd'hui, comme pour dire, ne sont pas arrivées à se classer parmi les meilleures en Afrique notamment. Donc les privés doivent
les privés, ça je l'ai dit. Le meilleur, l'évidence, c'est que les meilleures universités du monde sont privées. Consultez Harvard, consultez Louvain, consultez l'université de New York, consultez tout ça. Ce sont les universités privées. Alors, si la loi dit que les privés peuvent le faire, l'audit organisationnel de 2009, organisé par le ministre Machako, a montré que la meilleure université, la mieux cotée de la République démocratique du Congo était une université privée. C'est Jean de Mazenon. C'est une évidence. Et puis, quand on a dit à un certain moment contesté que les étudiants des privés puissent participer et faire partie des barreaux, ainsi de suite, on a dû organiser des concours. juger des gens en fonction de leur savoir-faire, de la capacité, pas en fonction de l'établissement de provenance. Mais qu'est-ce qui est arrivé? Les meilleurs, ceux qui ont réussi, beaucoup qui ont réussi, nombreux, viennent de privés. Mais il se fait que, si vous voulez améliorer la qualité, favoriser la compétition. Parce que l'émulation. L'avantage aujourd'hui, c'est qu'au moment où les universités classiques se cramponnent sur ce qu'on appelle filière classique, la littérature, belles lettres, etc., etc., mais l'environnement ne demande plus cela. L'environnement veut
des électroniciens, des mécaniciens,
des informaticiens,
des agriculteurs,
des managers, de tout ça, ils sont appelés,
ils sont pratiques.
Comme ils se retrouvent maintenant, plusieurs IST en République démocratique du Congo, plusieurs ISTM en République démocratique du Congo, pas que la demande était là, mais quand c'est le management qui s'implante à la demande de la base, les gens ne peuvent pas comprendre que le management puisse se trouver à Lubumbashi, à Kisangani et partout, et ainsi de suite. Et pourquoi? Parce que c'est privé. Une discrimination contre les privés. Parce que ceux-là qui sont en train de décider, ils sont nés dans le public, ils ont été à l'école maternelle publique, ils ont été à l'école primaire publique, ils ont été à l'université publique, ils ne savent pas que les privés peuvent faire quelque chose de très bien. Et moi, j'ai dit tout simplement qu'aujourd'hui, et la loi est claire, c'est ça le point fort. En article 138
de la loi,
la loi dit les universités privées sont créées par leurs propriétaires. Ils doivent être gérés conformément
voilà.
à leur...
Donc, je crois que dans cet esprit-là, il faudrait que les universités, quoi que privées, puissent réellement, dans les soucis de pouvoir repenser un peu l'enseignement, proposer d'autres filières qui ne sont pas proposées dans les classiques.
Voilà. Oui, il se fait que, quand on propose, et il se fait que la commission qui doit homologuer, ben...
Voilà, certainement,
voilà,
on va revenir
mais nous allons avancer.
Voilà, 081-890-7315 pour votre intervention en direct.
Votre radio vous propose chaque après-midi, du lundi au vendredi, 3 heures de découverte. De 13h à 16h, partie à la découverte de recettes, des femmes et des jeunes qui se distinguent. Suivez nos reportages, vie quotidienne, paroles d'enfants, regards d'avenir et points de vue des jeunes. Laissez-vous guider par des balades en zigzag, un geste de culture et beaucoup de musique. Nous répondons également à vos questions. 13h, 16h, découverte. Le total de l'après-midi sur Radio Okapi.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguembo.
Merci encore de votre fidélité à Radio Okapi. Vous êtes nombreux à débattre sur notre page Facebook, où c'est fait d'ailleurs, c'est le même débat. Maître Dominique, vous êtes à Mbujimayi, Maître César à Demba et Gaston à Kinshasa. Vous nous avez rejoints à ce niveau du débat. Je vous accueille, Maître Dominique, vous êtes avec nous. Bonjour. Voilà, on comprend que Maître Dominique est à Mbujimayi, mais il est en direct. Maître Dominique, est-ce que vous le suivez? Voilà, Maître César plutôt est à Demba. Bonjour, Maître César.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Quelle est votre contribution
à l'événement? J'ai essayé de vous sentir en cours. Vous pourriez un peu de me rappeler un peu.
Voilà, le temps que vous suivez les débatteurs et puis vous allez intervenir après. Gaston, vous êtes à Kinshasa. Bonjour.
Merci, je vous salue aussi.
Oui, Gaston, vous avez suivi les débats. Le professeur a proposé qu'on puisse revoir le ratio étudiant-professeur aujourd'hui pour atteindre quand même les standards internationaux. Le nombre de professeurs, on a besoin encore de 250 par an dans 10 ans d'en former au moins 250, mais jusque-là, la formation des professeurs à l'université est vraiment faible. Et puis, le manque de professionnalisation hein, dans la formation. Est-ce que vous partagez cet avis, Gaston?
Bon, d'entrée de jeu, je dirais que je connais bien le professeur Samman, il n'est pas aujourd'hui, hein, c'est un doyen. Je pense, je veux dire que lorsqu'on avait encore 3 ans, 4 ans et Diofa, au centre des garçons, on connaissait qu'il était professeur initiateur de l'université. Donc il n'est pas d'aujourd'hui, je vous dis que c'est un ancien que nous connaissons fort et bien. Mais il est vrai, à mon avis, que jusque-là, il n'y a pas un système proprement congolais, initié par les Congolais, qui est proposé. Moi, je pense que c'est au lieu de parler des systèmes des Occidentaux, des Belges, des Américains, ce qu'on doit appliquer ou soit adapter ici sur notre sol, c'est très important aussi d'adapter notre système à nos réalités, impropre. Si on a vraiment des professeurs, moi j'attends voir cet aspect des choses, que de proposer des choses qui existent déjà, qui en soi ne vont pas porter la solution. Mais bon, moi je pense que les
problèmes... Maître Gasson, est-ce que vous êtes d'avis qu'aujourd'hui, c'est vrai, tout le monde est d'avis qu'on doit changer quand même le système de formation au niveau des universités classiques, et la loi même autorise la privatisation même de l'enseignement qui était autrefois un domaine réservé à l'État, n'est-ce pas, qui en avait la charge. Mais aujourd'hui, avec l'avènement de privés dans ce secteur, est-ce que vous estimez qu'ils ont une part de responsabilité dans le filière qu'ils proposent d'abord, si nous voulons réellement changer, repenser autrement l'enseignement, c'est-à-dire proposer d'autres filières qui ne sont pas proposées par les universités et instituts supérieurs classiques?
Voilà. Pour les filières, moi, je n'en disconviens pas. Je veux dire une chose aussi, que le problème se situe normalement à ce niveau-là. Aujourd'hui, c'était l'Angola, il faut aller chercher l'argent pour faire un petit commerce, mais tout le monde sait de s'envoyer l'université comme moyen, comme chemin qui peut faire qu'on puisse gagner dignement sa vie demain. C'est pour cela que vous voyez l'afflux, vous voyez l'engouement. Et maintenant, tout ce monde-là qui vient de l'université, nous sommes destinés pour l'université, c'est pour cela. Vous voyez, sur 100%, si nos universités sortent, ne serait-ce que 9 ou soit 10% de bons étudiants, ce sont ceux-là qui vont faire en réalité, qui vont donner une bonne image à notre université à travers le monde. Et je vais vous dire qu'en réalité, à mon avis, c'est une question de méthode qu'appliquent nos enseignants, nos étudiants, mais aussi les étudiants dans l'acquisition des connaissances. Aujourd'hui, je vous dis combien de professeurs ou d'étudiants lisent, comprennent, analyse, applique. Moi, je pense que ce sont des méthodes à utiliser. Aujourd'hui, la connaissance est à la portée de tout le monde. Il suffit d'avoir une bonne méthode.
Vous avez parlé de méthode. Il y a Christophe qui a évoqué, il dit les problèmes devaient être pris à bras les corps en amont, notamment depuis l'école primaire, pour arriver à ces résultats. Parce que les fournisseurs, dans la plupart des cas, ceux qui enseignent d'ailleurs à l'école primaire sont des produits des universités. Et quand on dit que la qualité est vraiment au rabais, ce qui veut dire que déjà, à l'université, ceux qui sont formés à l'université ont encore du déficit, il y a des défaillances à leur niveau, et puis ils transmettent ça aux enfants, et la suite elle est biaisée. Merci beaucoup, Gaston. Maître Dominique, vous êtes avec nous en Bougimaï. Bonjour et bienvenue.
Oui, bonjour, Thierry. Bonjour, Thierry.
Quelle est votre contribution à ce niveau du débat?
Merci bien pour m'avoir accordé la parole. Je veux vous dire que on peut passer de réforme à réforme, mais on ne dit rien. Parce que l'avant-dernière réforme a rabaissé, imaginez, en droit. Lorsque l'on voyait le droit pénal général, c'était 120 heures. Mais lorsque on réduit ces nombres d'heures-là, on ne réduit pas la substance de la matière. On met le professeur devant un fait accompli. Quelqu'un qui vient pour donner une matière de 120 heures, mais il se retrouve là avec un facteur qui ne sait pas comment évoluer. Donc on n'a pas réussi avec la réforme. Aujourd'hui, on nous ramène avec les MLD. Il n'y a pas de problème. Le premier problème, c'est l'essence même des établissements publics, l'essence même des établissements publics. Une université est un établissement public. Et quand nous prenons maintenant comment on est en train d'exploiter les universités, nous avons des états nommés, pas sur base des critères d'un établissement public, mais sur base d'un clientélisme politique, d'un clientélisme clanique tribal. Et ces gens qui viennent là ne sont pas faits qui se fait normalement faire de droit. Ça, c'est un problème. Aujourd'hui, prenons par exemple, nous avons Lubumbashi qui a plus de 25 000, 000 étudiants. Mais Lubumbashi ne sait pas aujourd'hui, l'université de Lubumbashi ne sait pas acquérir par elle-même. Par elle-même, elle ne sait pas acquérir des ordinateurs, elle ne sait pas aujourd'hui, par elle-même, acquérir des puces, elle ne sait pas par elle-même construire d'autres bâtiments, nous n'avons que deux yeux là. Or, il a plus de 25 000 étudiants. Voyez-vous, c'est un problème réel qui se pose. Mais maintenant, par rapport
Oui, quand vous parlez de, des universités classiques, les universités publiques, mais aujourd'hui, quand on regarde des renseignements dispensés par le privé, par exemple, mais il y a encore beaucoup à dire, parce que dans la plupart des cas, c'est une formation qui laisse à désirer. Vous avez des universités qui n'ont pas des bâtiments. Aujourd'hui, avec le système LMD, ça demande encore beaucoup plus d'énergie et beaucoup plus d'approches, des stratégies pour arriver réellement à donner une formation de standard universel, Dominique.
C'est vrai, mais nous avons une université vraiment chez nous, en Kassai Oriental. Nous avons l'université de Mujima, l'université de Chikama. S'il vous plaît, ça c'est l'excellence, ça c'est l'élite. Mais le problème, c'est l'État qui a créé les autres universités, là, qui homologue les autres universités.
Je vais imposer d'ailleurs la politique de l'enseignement. Merci beaucoup. Alors on va prendre Franck, avant de revenir au professeur Saman, Franck, vous êtes à Vienne, en Autriche, vous nous avez appelé. Bonjour Franck, une bonne info.
Bonjour monsieur le journaliste, beaucoup de salutations au profil avec vos signaux et aux amis qui sont déjà prononcés.
Oui, quelle est votre contribution?
Oui, merci beaucoup. Cette thématique me préoccupe parce que j'ai été un peu présent quand on a initié ici en Europe. Je crois que on ne peut pas discuter sans un peu savoir les vraies motivations qui avaient contribué à l'initiation de ce projet. Il faut que le système LMD a été initié en vue de standardiser le programme des enseignements universitaires au sein des pays européens et aussi le diplôme à octroyer aux finalistes, de sorte qu'il n'y ait plus beaucoup de problèmes pour les embaucher. Ça signifie quoi? Quand on partait de l'Italie avec le même diplôme, on pouvait se retrouver en Belgique ou de la Belgique en Allemagne, de l'Allemagne à la Hollande, et avec le même diplôme, on pouvait partout être embauché à certains niveaux, parce qu'à l'époque, il y avait quelques problèmes qui se posaient, parce qu'il n'y avait pas un peu de standardisation des programmes jusque-là. Et avant d'y arriver, je sais parce que j'ai été là, on a dû d'abord travailler en amont et en aval pour réformer le programme des enseignements de la base maternelle jusqu'à l'université. Ainsi, on arrivait à nous faire voir à ce moment-là que, avec ce programme, les étudiants n'auront plus beaucoup à faire, les professeurs n'auront plus beaucoup à faire, on a essayé un peu de réduire le nombre d'années. Et ça, c'est un des aspects dont il faut tenir compte pour le débat d'aujourd'hui. Puis, quand on a initié ce problème, quand on a initié ce projet de LMD, il y avait déjà des gammes de questions résolues, par exemple la politique salariale des professeurs, l'octroi de bourses des étudiants et comment ça peut fonctionner. Puis, on a donné un temps pour que les étudiants arrivent d'abord à l'expérimenter, après, ça va être lancé. Je crois que c'est un système qui a ses avantages, c'est un système qui a fait preuve de quoi il est efficace, et c'est un système qui a été étudié par des routiniers professeurs, et ça marche dans un espace, ça marche. Maintenant, je peux dire que ça marche entre l'Europe et l'Amérique, entre l'Europe et l'Asie, et ainsi de suite. Je trouve que chez nous, le système peut être initié, parce que on a toujours des partenariats avec certaines universités. Ça vaudrait la peine qu'on puisse l'initier. Mais quelque part, personnellement, je reste un peu pensif parce que quand on doit l'initier chez nous, quand on doit l'appliquer chez nous, ça ne doit pas seulement être fait par imitation. Ça doit être étudié afin qu'on soit aussi compétitif par rapport aux universités avec lesquelles on a des partenariats. Le problème que je déplore chez nous, c'est au niveau de la qualité des enseignements. Je suis en train de m'exprimer, les profs m'écoutent, et je crois que le problème, c'est pas seulement et appliquer le système LMD qui offre autant d'opportunités, autant d'avantages, mais il faut aussi d'abord travailler au niveau de la qualité des enseignements. Je viens de temps en temps au Congo, et ce qui me fait mal, c'est quand je vois le niveau d'un étudiant de licence, le niveau d'un étudiant de graduat, quand on discute avec lui, ce dont il fait preuve au niveau de ses connaissances, ça donne
voilà. Merci beaucoup.
Alors, si maintenant on doit appliquer ce système sans avoir tenu compte
du contenu, comme on l'a dit avant,
ça risque d'être désorienté.
Merci beaucoup, Franck. Merci beaucoup, Franck. Il y a Dr. Bitu qui va prendre la parole.
Je voulais juste ajouter un élément. Juste un élément.
Voilà, rapidement, rapidement.
Les professeurs d'ici sont déjà bien payés. Et le problème de salaire de nos professeurs et de l'emploi de bourse chez nous, ça pose encore des problèmes. Alors je trouve que même là aussi, si on doit appliquer cette vision, ce programme de LMD sans tenir compte de tous ces aspects-là, ça risque encore de poser beaucoup de problèmes et en amont et en aval.
Merci beaucoup, Franck. Docteur Bitu, vous êtes à Kinshasa, bonjour. Voilà, Hubert, vous êtes à Kinshasa, bonjour Hubert.
Bonjour, M. Julien.
Quel est votre avis?
Mon avis, d'abord, je remercie le professeur pour son idée géniale, que je félicite, mais que je pense doit avoir de préalable. Moi, j'interviens en tant que ancien de l'UNIKIN, gestion de l'Université de Kinshasa. Ce que j'indexe à notre système d'enseignement, c'est d'abord le contenu de l'enseignement, et deuxièmement, le formateur, c'est-à-dire les enseignants. En termes de contenu, je dirais que de la base, notre système d'enseignement devrait être réformé. Ça, c'est ça le premier préalable avant de poser, de passer au système LMD. Donc, vous voyez que nous avons des comptes de cours qu'on ne devrait même pas avoir, qui ne servent à rien à partir de l'école primaire, à monter jusqu'à l'université. Moi, lorsque je suis étudiant, pendant toute ma carrière, j'étais le chef de ma promotion, je ne cessais de réclamer sur le contenu des enseignements. Il y avait des cours, nous avions pour une promotion jusqu'à 19 cours, 20 cours pour une promotion, vous imaginez. Et des cours qui ne servaient à rien. Donc, il faudrait qu'on soit objectif, qu'on essaye de faire une synthèse, un contenu très objectif. Parce qu'aujourd'hui, il y a une fossette très importante entre le marché d'emploi, c'est que le demandeur veut comme les former, les produits des universités, mais et ceux qui viennent. Parce que tout simplement, il n'y a pas de lien. Il n'y a pas de lien aujourd'hui. Nous avons parmi les entreprises qui recrutent, vous avez des entreprises de carrière, des entreprises de projet. Les entreprises de projet dans notre pays, les études prouvent qu'à 80% sont les entreprises de projet. Mais le contenu de nos programmes ici, en réalité, ne sert pas à leurs ambitions. Et quant au deuxième préalable, le professeur, aujourd'hui vous avez des professeurs qui vous sont tous des politiciens. Des politiciens, ils n'ont plus le temps de revoir le contenu de leur enseignement. Et vous avez des syllabistes qui datent de longtemps, qui datent depuis des années 80. Moi, je vendais des syllabistes parce qu'en tant que CP, je vendais des syllabistes de professeur. Vous voyez, des syllabistes qui datent depuis des années 80. Les professeurs sont vieux, certains sont vieux, je rejoins le professeur qui parlait du ratio, les ratios tellement déséquilibrés. Alors, mais il faudrait parler encore de ceux qui nous enseignent, mais qui ne peuvent même plus, qui sont des émérites. Alors que le peu qui sont là sont des politiciens tout le temps à la ville. Tout le temps, ils courent derrière des portes. Ils abandonnent ce qu'ils
veulent. Merci beaucoup, Hubert. Alors, je prends un aspect, au fait, l'opportunité aujourd'hui avec des entreprises, des projets. La formation ne répond plus. Là, c'est vraiment une adéquation quand on forme les étudiants, mais qui ne répond plus aux ambitions des entreprises, des projets, comme vous l'avez dit, la professionnalisation. Donc, c'est difficile d'atteindre l'objectif de résoudre ces problèmes, professeur.
Non, le problème peut être résolu, mais il faut cesser de plâtrer. On fait semblant. Je dirais ceci. Si on dit qu'il faut améliorer les ratios, ça signifie qu'il faut augmenter le nombre de professeurs. le vrai problème est de savoir comment augmenter le nombre de professeurs. Est-ce qu'on va acheter ces professeurs de l'extérieur? Est-ce qu'on va les former dans les universités publiques? Est-ce qu'on va les former dans les universités privées? Est-ce qu'on va aider d'autres universités à former aussi, etc., etc. C'est là le vrai problème. Parce qu'on veut augmenter le nombre de professeurs. Mais, pour plâtrer, qu'est-ce qu'on fait? On ferme l'université telle, parce que c'est privé, à l'université l'UCC. On dit incapable, on lui refuse d'organiser les doctorats en droit, les doctorats en ceci, organiser seulement les doctorats en théologie, alors que c'est UCC qui fut l'ancien Lovagnon. Et c'est à partir de Lovagnon qu'on est devenu inutile après nationalisation. Alors ceux qui ont commencé deviennent incapables. Eh bien, voilà, quand un professeur vient de Louvain, il est professeur visiteur, il est valable. Mais quand un professeur quitte l'UNIKIN pour donner cours au Sepromane, on dit là, ça ne compte pas. Comment est-ce que le même professeur qui forme des docteurs à l'UNIKIN ne peut pas former des docteurs au Sepromane? C'est ça le problème. Alors la question, c'est tout simplement de savoir tenir compte d'abord de notre espace. Comme l'a dit quelqu'un, pour pouvoir adapter les systèmes avec les nôtres. Comme le pays est vaste, il y a les méthodes de formation à distance. On parle de virtuel maintenant. Comment on peut empêcher des gens de former des docteurs ici, alors que maintenant il y a des thèses qui se font en ligne,
mm-hmm.
ainsi de suite. Et nos voisins, les diplômes qui sont les diplômes des voisins, des pays voisins, Bangui, Brazza, ainsi de suite. On arrive, on dit, on ne reconnaît pas ces diplômes parce que ça ne vient pas de la Belgique, parce que ça ne vient pas de l'université où j'ai été étudié. Ça ne va pas. Donc, c'est dire, en fait, au lieu de s'attaquer au vrai problème, on est en train de chercher ailleurs. Je dirais alors, à ce moment-là, il y a des éléments importants. Un, d'abord, il faut rendre l'enseignement compétitif.
Comme l'a dit Franck,
compétitif. Ne bloquez pas des professeurs. Comment on bloque le professeur maintenant? Parce que le professeur a un numéro de matricule, le professeur a reçu une voiture, le professeur a défendu sa thèse à l'UNIKIN. Alors, tout ça, il appartient à l'UNIKIN et il n'appartient pas à la nation. Alors que la plupart, nous tous des professeurs, docteurs, il n'y a pas un seul que je connais qui peut dire que de A à Z, il a étudié avec l'argent de son père. Mais c'est l'État qui a financé les études doctorales, c'est l'État qui a financé...
Oui, on va continuer sur les temps de temps peut-être de...
De rappeler
d'abord aux auditeurs qui peuvent participer à cette émission, hein, en composant les 081-890-6315, parce qu'il nous reste encore 15 minutes.
Parole aux auditeurs, pour participer, 081-890-6315, ou par internet, pa@radiocapi.com.
Parole aux auditeurs, J.R. Nguyen.
Nous entamons le dernier quart d'heure de cette édition avec vous, Marie-Louise. Vous êtes à Bounia, Major Béa à Kananga, mais nous revenons d'abord à vous, professeur. Tout à l'heure, avant le délit d'information, vous abordez la question de ce traitement des professeurs qui peut aussi constituer quand même une pesanteur aujourd'hui, un blocage pour que finalement on puisse améliorer un peu le système de formation au niveau des instituts supérieurs et universitaires, des universités et instituts supérieurs de la RDC. Donc, vous parlez d'ailleurs des véhicules aujourd'hui qu'on donne aux professeurs, mais qui sont un bien de ces universités-là.
Je disais hier, exactement, on doit tendre les taureaux par le corps. Nous avons dit problème insuffisant porteur. Ça signifie, ça ne sert à rien d'empêcher les professeurs Saman, très apprécié à l'université de Kinshasa, parce que jusqu'ici j'ai dirigé 25 thèses.
Qui vous a valu d'ailleurs l'équipe de recteur magnifique.
Oui, il peut parler même International Soccer Awards.
Mm-hmm.
25 thèses que j'ai dirigées à l'université de Kinshasa, mais quand je forme les gens au Sepromane, on dit que je suis incapable de former des docteurs au Sepromane.
Alors que il n'y a pas que vous, c'est probable. Il y a l'UCC qui a connu le même problème.
L'UCC, c'est-à-dire, les professeurs sont les mêmes. Nous sommes tous.
C'est-à-dire que c'est dans le cadre de l'enseignement.
Mais quand on vient à l'UTC, on dit non. L'UTC doit avoir ses professeurs.
C'est la politique d'assainissement de
l'Université
de
l'enseignement supérieur et universitaire.
C'est vous-même qui avez, en fait, discuté sur la loi, la nouvelle cadre.
On a discuté sur la loi cadre. Je suis en train de.
Ce sont des dispositions.
Mais ce qui reste vrai, c'est que vous demandez à un inspecteur de s'inspecter, ça devient très dangereux. Vous savez, vous demandez à un concurrent, un chef d'établissement concurrent, de pouvoir contrôler la viabilité d'un établissement qu'il croit qu'il est en train de lui piquer ses étudiants. Quel rapport il va faire là-dessus? Donc, c'est dire que le savoir-faire des privés a fait qu'on puisse attirer beaucoup d'étudiants. Et cela ne fait pas plaisir aux chefs d'établissement public. C'est pourquoi certains, et comme on les a...
Est-ce que la multiplication aujourd'hui des universités privées, c'est pour répondre réellement à ce besoin de pouvoir améliorer la qualité de l'enseignement ou, à, disons, renverser un peu la tendance qui voudrait bien qu'au nombre des étudiants versés dans la société, que ce soit réellement au pourcentage de l'emploi qu'on va trouver.
Mais
ou bien c'est pour des besoins un peu lucratifs.
Non,
c'est pourquoi vous les appelez, piquez, ce sont mes clients.
Je vais vous dire que les étudiants ne sont pas des petits-enfants. On dit d'ailleurs les meilleurs inspecteurs, ce sont des étudiants. On n'a jamais pris un étudiant lié bras et jambes pour l'amener à l'IDIPA. Bras et jambes pour l'amener au Sepromat. Ce sont eux qui décident d'y aller parce qu'il y a quelque chose là-bas. Parce qu'il y a adéquation entre la formation donnée à l'IDIPA, la formation donnée au Sepromat et l'environnement. Mais c'est ce que les gens qui voient ce mouvement-là disent, on a piqué nos étudiants. Par conséquent, il faut un mauvais rapport contre les plus.
Voilà, on va prendre la dernière série et puis on reviendra à vous pour la conclusion. Marie-Louise, vous êtes à Bounia, Major Béa, Kananga, Maître Likonza, Kinshasa, c'est la dernière série des auditeurs qui vont boucler cette émission. Marie-Louise, vous êtes avec nous à Bounia, bonjour.
Je suis en ligne. Oui, bonjour, merci de m'avoir accordé la parole.
Voilà, quelle est votre contribution, Marie-Louise?
Oui, ma contribution, je voulais seulement dire que le système LM2, c'est bien et c'est mieux parce que c'est un peu. On peut parler de la nouveauté.
Un peu relax, hein, et puis.
Mais ça demande un peu. Ça demande un peu plus. Ça demande plus. Il faut améliorer beaucoup de choses. Quand, par exemple, avoir beaucoup de professeurs, là, des fois, dans nos universités, nous avons peut-être peu de professeurs qui dispensent cours, et puis avec le nouveau système, il faut vraiment avoir des nouveaux professeurs et plus cadres. Et aussi, par rapport à nos cours, nous avons plusieurs cours dans des facultés, des cours qui ne cadrent vraiment pas avec nos facultés respectives. Il y a des cours vraiment qui sont là peut-être, vous pouvez dire, pour essayer un peu d'embrouiller ou bien d'encombrer la faculté. Ce qui ne peut pas vraiment aller, ce qui ne peut pas vraiment faire fonctionner, bien avancer le niveau de études des universitaires. Mais je voulais dire que le système LM2, c'est aussi mieux parce que ça peut nous aider à avoir un grand nombre de docteurs, de professeurs, tout ça dans notre pays, ainsi faciliter la formation pour d'autres, c'est-à-dire pour notre pays qui viendrait certainement après.
Merci beaucoup. Merci beaucoup, Marie-Louise, d'avoir contribué à cette émission. Vous êtes à Bounia, Major Béa Kananga. Bonjour, Major.
Hey, bonjour, monsieur le journaliste, ingénieur.
Quel est votre avis, Major Béa?
Oui, merci beaucoup pour la parole accordée. Je voudrais tout simplement dire ceci. Concernant l'évolution aujourd'hui des enseignements universitaires, au niveau national, tout comme au niveau provincial. Bon, j'ai trouvé une divergence, une différence entre les établissements publics et les établissements privés. Oui. Dans les établissements privés, vous trouverez des bonnes conditions, des bonnes choses qui se passent là-bas. Mais dans les établissements publics, donc c'est très compliqué. Je vous donne un cas, un exemple. J'ai étudiant de l'UNIKIN, l'Université de Kinshasa. Donc, la façon dont nous étudions, ça marque l'impossible, ça marque un terrible problème.
parce qu'on est en train de nous former pour que nous devenions aussi de grandes personnes qui peuvent donc assurer la sécurité ou soit attirer l'ordre dans notre pays. Vous trouverez dans un hôpital 3000 étudiants. Et puis les conditions dont vous
dans lesquelles vous étudiez, oui.
Donc, c'est tout à fait chaos. Bon. Et aussi les professeurs, bien sûr, nous avons des professeurs, des connaisseurs. Mais la manière dont on est en train, ils sont en train de transmettre les connaissances envers les étudiants, c'est tout à fait impossible, tout à fait. Donc, ça fait vraiment impossible.
Donc, le problème de transmission de la matière, de la manière dont on communique, c'est, ça pose déjà problème. Et ça c'est qu'il risque.
Il n'y a pas même moyen de
donc, il faut repenser un peu ce côté-là. La méthodologie, oui. Comme l'on dit, la méthode, les techniques, l'enseignement. Donc, je crois qu'à un certain moment, il faudrait. Tout ça, ça pourrait amener quand même à améliorer l'enseignement en RDC. Merci beaucoup, Major Béa. Maître Likonda, vous êtes également à Kinshasa. En une minute, quelle est votre contribution, Maître Likonda?
Oui, ma contribution, elle est simple. Je pense que le professeur a trouvé un cas concret et qui est aussi possible. Rendre l'enseignement compétitif. Pour tous les professeurs que nous avons aujourd'hui dans notre pays, on fait leurs études à l'étranger dans des universités privées. Mais quand ils rentrent ici au pays, les mêmes professeurs combattent les universités privées. Ils commencent à dire, vous étudiez à une université privée, là vous n'aurez pas une bonne formation, alors que les mêmes professeurs enseignent aussi dans ces universités privées. C'est paradoxal. Alors, on doit rendre l'enseignement compétitif et faire en sorte que ceux qui offrent les emplois dans ces pays puissent un peu réduire leurs obligations, leurs critères de l'expérience. Si tu es licencié depuis 2016, tu n'auras pas de l'emploi en 2017, en 2018.
Merci beaucoup, Maître Likonda. Voilà, merci beaucoup, Maître Likonda. C'est la question. Et la même question, nous la posons d'ailleurs à notre invité, professeur Otaman Olutu Oscar, professeur ordinaire, recteur magnifique de l'université de Sopomade. C'est vrai, aujourd'hui, vous l'avez dit en début de cette émission, qu'il va falloir tenir compte de trois aspects des choses, l'amélioration des ratios, et aussi augmenter les nombres des docteurs, hein, les professeurs docteurs au niveau de l'enseignement, et puis tendre vers la professionnalisation de l'enseignement. Est-ce qu'on peut dire que les trois, c'est possible d'arriver, mais sous quelles conditions? Est-ce que c'est pas par le respect strict de la loi, le cadre de l'enseignement?
C'est possible. La loi cadre est très bonne. Ce sont plutôt des mesures d'application. C'est dire que l'homme qui doit appliquer doit être l'homme du terrain et avoir lui-même l'esprit de créativité. Or, il se fait que la plupart des gens qui appliquent, ce sont des gens qui sont dans un conservatisme à outrance. C'est pourquoi moi je dirais, maintenant, il faut commencer d'abord, comme la loi autorisait l'existence du Conseil des universités privées agréées, donner à ce pouvoir ses responsabilités, c'est-à-dire en faire une sorte de l'ordre des médecins. Nous le ferons. Quand c'est un ordre, mais maintenant nous avons un conseil, ça nous suffit comme ça, tout ce qu'il y a comme mission, tout ce qu'il y a comme évaluation, ça doit transiter par là. Mais on ne peut pas demander à un recteur de l'université de Kisangani de devenir gouverneur de l'enseignement pour commencer à dire cet établissement privé n'est pas viable, bien qu'il n'ait pas été là. Ça, nous disons non. Et on ne peut pas, la loi dit, pour pouvoir fermer l'établissement, il faut une commission qui fait l'étude de viabilité. Alors, il faut suivre la procédure. Mais on ne doit pas s'en tenir à un rapport d'un collaborateur qui n'a pas trouvé son compte quelque part pour dire là, ce n'est pas viable parce qu'il n'a pas eu ce qu'il devait recevoir.
En dernier mot, il faut qu'il y ait cette synergie.
Il y a quelque chose de très positif. C'est cette loi cadre qui a été publiée. Il faut l'appliquer. Aussi, les ministres de l'enseignement supérieur. Il n'est pas ministre des établissements publics, mais
le ministre de l'enseignement supérieur
et universitaire. Privé. ça il faut le faire. Et il faut faire la différenciation entre ce qui est spécifique au privé, conformément à l'article 138 de la loi cadre. Donc, les établissements qui sont des ASBL sont régis par ASBL et on combine la loi. Mais voilà, cela étant dit, il ne faut pas demander à la SENCO de pouvoir élire les recteurs de l'université de Congo.
Merci beaucoup, professeur Saman Olutu Oscar. Tout le plaisir était pour nous de vous recevoir ce début d'année, hein, pour la première fois dans l'émission d'ailleurs, par nos auditeurs. Professeur ordinaire de l'université, recteur magnifique de l'université de Sopromade. Merci d'avoir répondu à notre invitation. À très bientôt. Voilà, merci également à toute l'équipe qui a concouru à la production de cette émission. Parole aux auditeurs, Alain Goy, Pierrot et Lamégi, Julie César Bungunda, Jir Lungembo était à la coordination et à la présentation de cette émission supervisée par Martin Sebou Jangwe. On se retrouve demain dans un autre numéro. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la fréquence de la paix.